Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui, je vous retrouve pour décrypter le scénario du film Anatomie d'une chute. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode que je n'avais absolument pas prévu de réaliser. Il se trouve que j'ai posté un réel il y a quelques jours au moment où j'enregistre cet épisode. C'était donc un réel humoristique, comme très souvent, parce que vous savez que j'adore faire ça. Ça a démarré sur TikTok et maintenant je les poste sur TikTok et sur Instagram, où je passais la musique emblématique du film Anatomie d'une chute. Film que vous n'avez peut-être pas vu, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que vous pouvez continuer à écouter cet épisode si vous n'avez pas vu ce film, tant que je ne vous dis pas d'arrêter d'écouter cet épisode, parce qu'à un moment on va rentrer dans le vif du sujet, et je vais vous spoiler complètement la fin, ce qui serait vraiment stupide, donc vous pouvez commencer à l'écouter si vous n'avez pas vu ce film, et je vous dirai quand interrompre l'écoute de cet épisode. Et donc dans ce réel, je fais un petit clin d'œil à l'intrigue, vraiment à l'essence du film, et l'une d'entre vous m'a dit « mais j'aimerais trop connaître tes théories sur ce film ». Vous allez voir que c'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre avec un scénario très particulier qui laisse le spectateur avec un choix à la fin. Choix qui est complètement éclairé par ses convictions, ce qu'il a pu déceler ou non pendant le film, donc c'est vraiment un film qui laisse avec une fin qui peut être décevante pour certains, que j'ai trouvé extrêmement intelligente pour ma part. Et donc la personne qui m'a suggéré de faire cet épisode, je suis désolée, je n'ai pas du tout retenu ton pseudo et encore moins ton prénom, mais si tu passes par ici, merci. Je vous retrouve donc pour décrypter ce film qui m'a complètement chamboulée. Alors, pour planter un petit peu le décor, moi je ne suis pas une grande cinéphile pour plusieurs raisons. Le cinéma n'a jamais été quelque chose de très ancré dans ma culture. Lorsque j'étais petite, mes parents n'étaient pas cinéphiles, donc j'ai pas été à beaucoup de séances de cinéma marquantes. J'avais pas des kilomètres de DVD comme certaines de mes amies pouvaient avoir. C'est vrai que culturellement, artistiquement parlant, chez moi on était plus axé sur la musique ou sur l'art en général, mais assez peu sur le cinéma, et c'est un virage que j'ai pas pris en grandissant. Aujourd'hui, j'avoue qu'avec le prix des séances de ciné, je fais pas forcément l'effort de me rendre dans les salles obscures pour découvrir des films. Ça se passe plus souvent chez moi en VOD, ce qui est le cas du visionnage de ce film d'ailleurs, parce que le cinéma, voilà, c'est hors de prix, que je n'ai pas d'abonnement pour le cinéma, et que je crois que je deviens de plus en plus intolérante, et que quelqu'un qui mange son popcorn dans mon oreille ou qui tape dans mon siège, vraiment c'est le truc numéro un qui m'agace, ça rend l'expérience absolument désastreuse. Et du coup, en sortant de là, je me dis, bah voilà, 15 balles pour que quelqu'un ouvre son sachet de bonbons derrière moi pendant un quart d'heure, donc voilà, j'ai jamais eu une très bonne expérience au cinéma, alors que je suis quand même au fond convaincue que certains films valent le coup d'être vus au cinéma et pas chez soi. Je pense notamment à un film comme Interstellar. Voilà, si vous voyez ça chez vous, je pense que vous passez à côté de 50% de l'essence du film, du montage, de ce côté où vous avez l'impression de voler tout simplement dans l'atmosphère avec les acteurs principaux. Enfin voilà, ça fait partie de ces expériences que ça vaut le coup de vivre en salle de ciné, mais voilà, pour tout ça pour vous dire que le cinéma n'est pas très implanté dans ma culture personnelle. J'ai d'ailleurs un très très gros manque à gagner. J'ai une culture cinématographique désastreuse, mais ça me complexe pas. C'est vrai que j'entends des gens discuter de ce qu'ils ont vu dernièrement au ciné et tout, j'ai l'impression que je suis complètement à côté de la plaque, mais ça me complexe pas, ça me pose pas plus de soucis, donc du coup voilà, j'ai jamais fait l'effort de bosser cette culture cinématographique. Anatomie d'une chute, la première fois que j'en ai entendu parler, donc voilà, en partant du principe que je fais vraiment partie de ces gens qui ne s'intéressent pas à ce milieu-là du cinéma, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était lorsque le film a remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes. Ça fait les grands titres des magazines, des journaux, même vous baladez dans la rue, vous avez un grand titre devant une maison de la presse, donc c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment louper. C'était la Palme d'Or donc du Festival de Cannes 2023, si je ne m'abuse. Ça a légèrement planté une graine en moi, parce que c'est vrai que ces films-là, ça donne envie de les voir, de se dire, bah, qu'est-ce qui fait que ce film a pu décrocher la Palme d'Or. Mais à la fois, j'ai pu regarder par le passé d'autres films qui ont décroché la Palme d'Or, et étant donné que j'ai pas cette culture cinématographique, j'ai vraiment vu des films en me disant, mais pourquoi ? Enfin, pourquoi une Palme d'Or pour ce film ? Alors, je comprends très rapidement que si je comprends pas le pourquoi de cette Palme d'Or, c'est parce que je ne m'intéresse pas assez à ce secteur qu'est le cinéma, mais voilà, le fait qu'un film obtienne la Palme d'Or, pour moi, n'est pas un critère numéro un pour me faire aller voir le film en question. Et puis, Anatomie d'une chute a remporté très peu de temps après 2 Golden Globes. J'espère que je ne me trompe pas, mes meilleurs films étrangers et meilleurs scénarios. Donc là, j'ai commencé à me dire, ok, ça fait quand même pas mal de récompenses. Et quelques temps après, et d'ailleurs je ne sais même plus si les Golden Globes sont arrivés avant les Césars ou mais peu importe, le film a remporté 6 Césars, et là c'est vraiment le truc qui m'a fait me dire que ça commençait à faire quand même pas mal de récompenses pour un seul et même film. Donc au César, ils ont eu meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice, meilleur scénario, meilleur acteur de second rôle, et il m'en manque un. Je ne sais plus lequel est le dernier. Et il se trouve qu'au moment où j'enregistre cet épisode, là on vient de passer la nuit des Oscars, j'enregistre donc le 11 mars 2024, Anatomie d'une chute vient d'obtenir un Oscar pour le meilleur scénario. Donc là ça commence à faire quand même pas mal de récompenses, et on va dire que la multiplication des récompenses a aiguisé ma curiosité et m'a donné envie de regarder ce film. Alors je vais vous lire le synopsis, vous allez voir que si vous me connaissez bien, j'ai mille raisons de me tourner vers un film comme ça. Donc le synopsis sur allociné.fr, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et le suivant, Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute. Suicide ou homicide, point d'interrogation. Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. Alors, vous savez que moi, tout ce qui est fait divers, enquête, etc., c'est un truc qui me passionne, donc il n'a pas fallu beaucoup plus d'arguments que les fameuses récompenses et ce synopsis pour me donner envie de regarder ce film. Pour info, au moment où je l'ai regardé, j'espère que c'est encore le cas au moment où je parle, mais les choses ont pu changer. Le film était disponible sur Prime, donc Amazon Prime Video, en location, mais il faut rajouter un petit peu d'argent parce que sur Prime, tout n'est pas compris dans le forfait de base. Donc peut-être 3 ou 4 euros. Franchement, vous allez comprendre avec la suite de l'épisode, mais je vous invite vivement à dépenser cet argent. Et moi, j'ai la grande chance d'avoir des accès Canal+. Un ami nous prête ses codes, tout simplement. Donc c'est comme ça que j'ai regardé Anatomie d'une chute. Mais avec toutes les récompenses voilà, qui se sont multipliées, beaucoup de cinémas, et notamment dans les grandes villes, malheureusement, je crois, ont décidé de rediffuser le film. Donc avoir à côté de chez vous, mais il est sûrement possible de retrouver le film dans les cinémas actuellement. Alors le film est long, il dure 2h30 ou 2h40 de mémoire. Je l'ai regardé seul chez moi parce que j'étais pas persuadée que le film intéresse Quentin, et maintenant j'en ai beaucoup parlé, donc je pense que je vais réussir à le convaincre de le voir, et moi je vais en profiter pour le revoir. Et vous allez voir qu'avec tout ce que je vais vous raconter dans cet épisode, je pense que ça fait partie de ces films qui méritent d'avoir deux, voire davantage de visionnage pour vraiment avoir différentes lectures et pour voir tous les détails volontaires qui ont été instillés pendant tout le film. Je pense notamment à d'autres films type Inception. Ça vaut le coup de revoir ces films une deuxième, voire une troisième fois, parce qu'en fait, une fois qu'on a la lecture finale, on peut revisionner le film et découvrir de nouveaux aspects qu'on n'a pas forcément visualisé au moment du premier visionnage. Je pense à Shutter Island aussi, je referai un parallèle avec ce film Anatomie d'une chute. Donc je vais essayer de remotiver Quentin pour le regarder pour lui une première fois et pour moi une deuxième, parce que ça fait partie de ces films et c'est très très rare que j'ai envie de revoir une deuxième fois. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas vu ce film, je vous invite à arrêter ici, ou alors continuer, mais c'est dommage parce que vraiment, vraiment, c'est un film qui vaut le coup, ne serait-ce que pour s'en faire un avis personnel. Moi, ça fait partie de ces films qui m'ont marqué, que j'oublierai jamais, que je vais avoir envie de revoir, et qui tombent assez vite dans mon top 3, voire dans mon top 5 de mes films préférés. Ce que j'ai adoré dans ce film, avant de vous parler vraiment de cet avis très divergent qu'on peut avoir à la fin, c'est que c'est un film qui est apparemment très conventionnel, mais qui comporte plein de petits détails qui sont hyper intéressants et qui, moi, m'ont complètement scotché et qui m'ont accroché pendant tout le visionnage. Il y a des tremblements de caméra qui sont présents lors des moments de dispute où on a vraiment la sensation d'être dans la pièce avec les protagonistes. Lorsque Sandra se dispute avec Samuel, ce que j'ai adoré d'ailleurs, c'est que les prénoms des deux personnages sont les prénoms des acteurs principaux dans la vraie vie. Voilà, c'est un petit détail, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc ces fameux tremblements, les différents sons qui sont proposés, notamment cette chanson, cette reprise de P.I.M.P. de... qui chante ça d'ailleurs? C'est 50 Cent, je crois, cette reprise un peu esprit Caraïbe, etc. La musique, enfin ce son, lorsqu'il est, il est passé pendant le film, la musique est extrêmement forte, à tel point que vous, en tant que spectateur, ça vous donne envie de réduire le son, tellement le différentiel est notable entre le reste du son du film et cette musique qui est très très forte. Ça, j'ai trouvé que c'était très puissant, très malin, parce que vraiment, ça, c'est tellement assourdissant que même pour le spectateur, ça le devient. Et ça nous plonge vraiment dans l'intrigue et j'ai trouvé ce petit détail absolument génial. Au moment de la scène dans le tribunal, le jury populaire qui est constitué de citoyens n'est jamais filmé ou à ma connaissance pas. À nouveau, ça vaudrait le coup que je regarde le film une deuxième fois pour confirmer ça. Et pour moi, ça m'a tout de suite fait comprendre que si ce jury il est pas filmé, c'est parce que le jury c'est la caméra, que le caméra c'est le spectateur et que donc le spectateur est le jury. C'est une sorte de narration par les images que j'ai trouvé hyper hyper puissante. Une fois que j'ai regardé ce film jusqu'à la fin, la première chose que j'ai faite c'est de taper anatomie d'une chute fin ou anatomie d'une chute synopsis ou anatomie d'une chute résolution, je sais plus exactement ce que j'ai écrit, ce qui est un truc que je ne fais absolument jamais, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé de regarder un film, même s'il m'a bouleversé, je vais éventuellement y repenser, en reparler avec la personne qui l'a visionné avec moi, mais jamais 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 je vais aller sur des forums de discussion entre cinéphiles ou sur des sites spécialisés pour pouvoir pousser la réflexion un peu plus loin. Je crois que je l'ai fait éventuellement pour Inception, je crois que je l'ai fait également pour Shutter Island, qui est un film que j'ai trouvé brillantissime. À nouveau, je vais pas vous le spoiler si vous ne l'avez pas vu, mais à la fin il y a le personnage principal qui est incarné par Leonardo DiCaprio, j'avoue que je me souviens plus du nom du personnage, Leonardo DiCaprio donc va prononcer une phrase à la fin du film qui peut vous faire renverser intégralement tout ce que vous venez de regarder, et moi ça m'a donné envie justement de me rendre sur des sites spécialisés derrière pour décrypter cette fameuse phrase. Et ben pour Anatomie d'une chute j'ai fait exactement la même chose, ce qui pour moi était rare ici, mais en fait je ne pouvais pas en rester là, alors que le film a duré voilà, 2h30, 2h40, en plus je l'ai commencé assez tard, donc il était pas loin de minuit. Si vous me connaissez, vous savez que à cette heure-là, normalement, je dors, et donc je me suis retrouvée sur des sites à faire des recherches pour essayer de comprendre, de croiser aussi mon avis avec celui d'autres personnes. Et donc, le film, donc vous l'avez vu, se termine sur un acquittement pour Sandra, qui est un acquittement qui est assez logique, en fait, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a pas d'ADN, donc... Bah, on est dans une justice française, donc bénéfice du doute, donc acquittement. Donc moi, cette décision, elle m'a pas du tout paru surprenante, mais comme dans tous les cas judiciaires en France, c'est pas parce qu'il y a acquittement qu'elle est 100% innocente, comme, bah, c'est malheureux, mais des personnes qui sont désignées coupables et qui vont finir leur vie en prison ne sont pas forcément réellement coupables, parce que des erreurs judiciaires, il y en a plein, et donc voilà. En absence de témoins et en absence d'aveux, on est forcé d'interpréter ce qu'on a vu, ce qu'on a découvert dans le film, et Sandra finit par être acquittée. Alors maintenant, les deux thèses, en tout cas les deux grandes thèses, parce qu'il y a l'une de vous d'ailleurs qui m'a aussi envoyé un message en me disant « Bah selon moi, il n'y a pas que deux thèses, mais je vais y revenir. » Il y a deux grandes thèses. La thèse, c'est « Sandra finalement était coupable » ou alors « Sandra finalement était innocente dans l'histoire ». Et donc si elle était innocente, c'était peut-être... un suicide ou autre. Donc je vais reprendre ces deux grandes thèses, sachant que les autres thèses qu'on a pu m'amener, c'était probablement genre le chien et peut être coupable. Bon, je vois pas comment, mais pourquoi pas. Ou alors l'enfant avait un rôle plus important dans ce décès, dans cette mort assez inexpliquée. Moi, je vais vraiment partir sur ces deux grands axes parce que selon moi, c'est avec ça qu'on termine le film et qu'on est vraiment tiraillé entre ces deux états d'esprit. Et je vais surtout vous dire quel avis moi j'ai eu immédiatement une fois le film terminé pendant que le générique défilait, parce que c'est intéressant aussi de voir que mon avis a pu évoluer, mais que moi, au moment où le film s'est terminé, eh ben, j'étais persuadée que moi, Sandra, elle était coupable. Ce qui est rigolo, c'est que Justine Triet, la réalisatrice, a dit qu'en fonction du pays où le film avait été diffusé, elle avait l'impression que l'avis divergeait, notamment qu'aux États-Unis, la majorité du public pensait que Sandra était innocente et qu'en France, notamment, la majorité du public pensait qu'elle était coupable. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'elle était coupable pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai pas trouvé qu'elle semblait ressentir une réelle tristesse pendant le procès, hormis le fait d'être triste, d'être suspecte, d'être interrogée, et puis d'être dans cette histoire qui est dramatique, mais j'ai pas vraiment senti une énorme peine vis-à-vis du décès de son conjoint. Alors, ça veut pas forcément dire qu'elle l'a poussé du haut de la fenêtre, mais je trouve que c'est quand même un peu bizarre, même si ce couple, il avait l'air d'être en bout de course, hein, parce que ça, on a assez d'indices dans le film pour nous le prouver. Ce côté un peu froid, alors pareil, c'est peut-être culturel également, parce qu'elle n'est pas française, qu'elle ne parle pas la même langue. D'ailleurs, pendant le procès, il y a tous ces problèmes où elle ne peut pas obtenir d'interprète au bon moment, qu'elle est obligée de répondre en français alors que c'est pas sa langue maternelle. Ça, c'est très intéressant aussi, et je pense que c'est quelque chose qui se présente dans des tribunaux absolument tous les jours dans plein de pays du monde. Donc ça, voilà, déjà, ça a semé une petite graine pour me dire que je trouvais son comportement un peu étrange.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ensuite, il y a cette histoire d'amour avec son avocat. Alors ça, c'est pas une vue de l'esprit, hein. Je crois qu'à un moment, il a des mots assez tendres avec elle en disant « Ah, on aurait pu être en couple » ou je sais plus quoi. Pareil, ça me fait dire que, comme par hasard, c'est lui qui vient la défendre à ce moment-là et peut-être pour l'aider à maquiller voilà, le fait qu'elle ait poussé son mari du haut du balcon. Voilà. C'est pareil, j'extrapole peut-être un petit peu, mais ça m'a permis de pousser la réflexion dans le sens où j'imaginais que Sandra pouvait être coupable. Ensuite, il y a le déroulement des événements, puisque lorsqu'elle raconte à la police qu'elle s'endort avec cette musique qui est assourdissante dans la maison, la musique en question l'empêchait de parler et d'avoir une discussion audible avec la personne qui était en face d'elle. Mais elle arrive quand même à trouver le sommeil avec cette musique-là, sachant qu'elle parle d'une histoire de boules qui est, mais des boules qui est, moi, pour en avoir porté, ça maquille pas un son pareil, le son est complètement dingue, elles arrivent à peine à discuter l'une avec l'autre. Donc comment est-ce possible de trouver le sommeil à ce moment-là? Et cette histoire de boules qui est qui tombe de l'oreille et qui fait qu'elle entend les cris de son fils en bas, pareil, je trouve que ça tient absolument pas la route, une boule qui est, une fois qu'elle est dans l'oreille, à part si on a un sommeil... complètement agité, je vois pas comment... Enfin voilà, je trouve que dans la construction du mensonge, parce que moi c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand elle a dit ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu bancal. Ensuite, on retrouve des marques de lutte sur son corps, donc là on est au-delà de la simple dispute, j'ai envie de dire, de couple. Il y avait des scènes de violence, alors je dis pas du tout qu'elle est responsable de ce qui lui arrive, hein. C'est pas du tout le chemin que je veux prendre, mais ça me fait dire que cette relation, elle avait un degré de toxicité qui était immensissime, puisqu'on en était arrivé à des sévices physiques, ce qui pour moi pourrait justifier le fait qu'elle ait eu envie de jeter son mari par la fenêtre, si c'était dans le cadre d'une légitime défense ou de quelque chose dans ce style-là. Et puis après, il y a cette fameuse scène qui est racontée dans tous les détails de la tentative de suicide avec donc le psychiatre ou le psychologue, je ne sais plus, de Samuel qui va intervenir et qui a d'ailleurs un discours assez lunaire. Cette scène de tentative de suicide, pour moi, elle a pu être complètement inventée et elle a complètement pu bâtir ce mensonge avec son avocat, parce que dès les premiers instants, l'avocat en question le fait comprendre à Sandra que sa seule stratégie de défense, c'est de plaider pour le suicide. Alors j'entends complètement hein, que pour pouvoir rassembler les pièces du puzzle, bah, il faut des pièces justement dans le puzzle, et que le suicide est l'une de ces pièces, donc je comprends complètement l'axe de défense, mais cette explication autour de cette fameuse tentative de suicide, pour moi elle est complètement invérifiable, parce que Sandra est la seule témoin vivante à ce moment-là, donc... Bah ça tient pas vraiment debout. Et après, selon moi, il y a un acteur qui est vraiment essentiel dans tout ce narratif, c'est l'enfant. Donc l'enfant s'appelle Daniel dans le film, il est interprété par Mino Machado Graner, qui est absolument incroyable. Je trouve qu'on a beaucoup parlé des acteurs principaux, mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé de lui. Il est vraiment fabuleux, parce qu'en plus il interprète un enfant qui est malvoyant, alors que lui est valide, donc j'ai trouvé que son interprétation du handicap était d'une puissance rare. J'ai beaucoup souri, parce que du coup on le voit dans beaucoup d'interviews maintenant, et il a énormément grandi, parce que entre le moment où le film est filmé, puis après il faut qu'il soit monté, diffusé dans les salles, puis qu'après les récompenses arrivent, et il est, voilà... complètement méconnaissable. Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes avec Daniel. Premièrement, c'est quand il raconte le dialogue avec son père, avec donc cette fameuse scène dans la voiture où le père raconte à son fils que il va pas falloir qu'il s'accroche trop à son chien parce que le chien est probablement en fin de vie et que bah il va finir par disparaître et que voilà, on n'arrive pas à comprendre s'il y a un petit peu une analogie pour lui dire sois prêt au fait que moi un jour je mette fin à mes jours ou autre. Je sais pas si vous avez remarqué dans le film, mais c'est hyper puissant. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas vu et que j'ai découvert notamment une fois que j'ai lu toutes ces choses après mon visionnage. Dans cette scène, faites bien attention, mais en fait, on voit le visage du père avec ses lèvres qui bougent, mais c'est la voix du fils qu'on entend, comme s'il inventait le dialogue en quelque sorte. Et c'est une scène qui est hyper puissante parce que, à ma connaissance, c'est l'un des deux seuls flashbacks du film. Il y a celui-ci et la scène de la dispute entre les deux parents. Mais ce flashback, il est raconté avec la voix de Daniel, avec en effet les lèvres du père qui bougent, mais la voix de Daniel qui parle. Et pour moi, ça me fait penser que quand même le dialogue a pu être inventé et que donc l'enfant vient raconter une histoire pour permettre à sa mère de ne pas être emprisonnée. Et l'autre élément qui est hyper intéressant et qui est très important, c'est que quelques jours avant la fin du procès, donc il y a un week-end qui se déroule, et en fait Daniel va demander à reprendre la parole au tribunal, et il retrouve au dernier moment un argument qui est très très fort, qui me fait dire que pour lui c'est une stratégie pour que sa mère s'en sorte innocente à un moment où lui réalise qu'elle allait partir en prison. Daniel dans le film, il est jeune, je ne sais plus quel âge il a, mais globalement c'est au fur et à mesure de la procédure et au fur et à mesure du déroulement du procès dans le tribunal qui finit par comprendre que sa mère va être inculpée, et il insiste pour assister à tout ce qui se passe au tribunal pendant cette scène de dispute entre ses parents qui est hyper hyper violente et qu'il découvre au tribunal en version audio pour la première fois. Pour moi, il comprend en fait que sa mère, elle était opprimée, qu'elle était probablement victime de violence. Alors physique, il y a des marques, psychologique c'est certain, elle était en tout cas accusée de tous les maux par son père, et j'imagine que du coup pour moi Daniel juge sa mère abusée et qui décide à ce moment-là d'accréditer le mensonge de sa mère, donc cette fameuse scène de tentative de suicide, en apportant les éléments autour de la scène du chien. Alors certains ont dit, et je suis d'accord aussi, que même si c'était un mensonge, il n'aurait pas recréé cette scène à domicile en prenant le risque de tuer son chien, tout simplement parce que en lui faisant ingérer à nouveau, je crois que c'est de l'aspirine, il aurait pu, pour cette deuxième fois, tuer son chien, tout simplement. D'ailleurs, le chien ne vomit pas la deuxième fois et il est obligé d'appeler... je ne sais même plus quel est le rôle de cette personne, mais qui s'occupe de lui à la maison pendant qu'il est éloigné... ce qui est logique, de sa mère. Et la personne qui est appelée, pareil j'ai oublié son prénom, va réussir à faire vomir le chien pour lui faire évacuer les médicaments. Alors je suis d'accord avec ça aussi, parce que c'est vrai qu'il prend le risque à ce moment-là de tuer son chien, puis à la fois j'ai envie de me dire, ça reste un enfant, donc est-ce qu'il avait vraiment conscience de la teneur de son acte à ce moment-là? Et puis pour lui c'était une preuve hyper puissante, et puis et ben justement quand le chien est pas loin de mourir, il appelle cette fameuse personne qui s'occupe de lui et qui fait partie... de toute la ramification de personnes qui sont autour de l'enquête, et pour moi c'est un geste qui est très important, qui permet de corroborer sa thèse et qui permet de soutenir sa mère avec un argument quasi imparable, puisque c'est voilà, l'une des seules choses qu'il peut raconter avec vraiment des faits à la barre pour pouvoir permettre à sa mère de ne pas être emprisonnée. Et il y a une autre scène à la fin du film que j'ai trouvée très très forte, quand Daniel et sa mère se retrouvent dans la maison, et ils sont donc dans une pénombre assez importante, c'est Daniel qui console sa mère, et il y a une symbolique qui est hyper hyper forte. Ça, je l'ai vu aussi, et ça m'a beaucoup, beaucoup happé, et moi, ça m'a permis de rajouter une pièce dans le jukebox pour me faire dire que Sandra était coupable. Daniel a donc sa mère dans les bras, et c'est lui qui la console, déjà dans les gestes qu'il a envers elle, voilà, c'est lui qui la prend dans ses propres bras à lui, et il a physiquement sa tête qui est plus haute que la tête de sa mère, et cette dernière scène, pour moi, elle est très très forte, de le voir physiquement au-dessus de sa propre mère. Et pour moi, ça me conforte à nouveau dans l'idée que Sandra était coupable. Et ensuite, même si ça n'est pas mon avis, il y a quand même des éléments qui pourraient faire penser le spectateur que Sandra est innocente. Ces arguments, ils sont très forts, et d'ailleurs, moi, je ne suis pas persuadée à 100%, mais je vais y revenir, que Sandra est coupable, mais voilà, je vous énonce, moi, l'avis que j'ai eu vraiment à la fin du visionnage. Alors, pourquoi Sandra pourrait être innocente? Premièrement, elle laisse objectivement son fils... malvoyant, donc pour lequel elle a une peine immense, parce qu'en plus on voit que cet accident que leur fils a eu et puis le handicap visuel qu'il a développé derrière ont laissé un traumatisme dans la famille, donc vraiment elle va laisser son fils malvoyant découvrir le premier son père mort, ce qui est un truc qui me, enfin en plus en étant maman, qui me dépasse complètement. Dans le déroulé des choses, qui d'autre que Daniel aurait pu découvrir le corps de son père à part lui à ce moment-là? D'ailleurs, c'est le chien qui va s'approcher du corps, qui va aboyer, qui va alerter Daniel. Il y avait personne d'autre dans les parages, ils sont complètement isolés dans cette maison au fin fond de la montagne. Donc j'arrive pas à croire qu'elle puisse être coupable de ce qu'elle vient de faire, ou alors elle est dans un déni pas croyable à ce moment-là, parce que ça voudrait dire que dans un drame pareil, elle est consciente du fait que c'est son propre fils qui va découvrir son père décédé quelques minutes après, et voilà. Pour moi, ça c'est inenvisageable, et ça me fait en effet dire qu'elle peut être complètement innocente. Et il y a une autre scène qui est très intéressante à la fin du film. Je crois qu'après que Sandra ait eu justement cette étreinte avec son fils, elle va se coucher, je sais plus si c'est dans sa chambre ou sur un canapé, mais ça n'a pas d'importance, et le chien vient vers elle à la fin. D'ailleurs, le chien, est-ce qu'on peut parler de ce jeu d'acteur, même s'il n'est pas acteur, parce que c'est un animal, mais incroyable, incroyable ce chien. D'ailleurs, il était, pour la petite anecdote, il était présent avec un petit nœud papillon à la cérémonie des Oscars hier. Je pense que c'était absolument pas protocolaire, mais j'ai trouvé le clin d'œil absolument génial. Donc le chien vient vers Sandra, donc ça, on est sur la... Je crois que c'est la dernière scène du film. Il vient vers elle, il vient s'allonger à côté d'elle et il vient comme la réconforter. Et le chien, à ce moment-là du film, ça peut vraiment être le symbole de la neutralité, parce que il y a ce côté loyal, fidèle de cet animal de compagnie qui fait que le grand public ne peut pas s'imaginer qu'un animal puisse venir conforter, réconforter quelqu'un qui a fait quelque chose de si grave. Donc voilà, il y a un gros symbole, je trouve, autour de ce côté loyal qui, en effet, peut faire penser que Sandra est innocente. Il y a deux, trois autres petits éléments que j'ai découvert justement dans mes fameuses lectures sur notamment des forums spécialisés après avoir regardé le film. Je voulais juste vous en parler. J'ai pas forcément réussi à les faire rentrer dans une catégorie, mais c'était... plus pour vous ouvrir les yeux peut-être sur des détails que vous aviez pas remarqué pendant le film, en tout cas moi c'est mon cas. Samuel est muet pendant tout le film, hormis pendant les deux flashbacks. Le reste, c'est une sorte de ventriloquie parfaite qui est faite par l'avocat général. Je vous rappelle que l'avocat général, il vient servir vraiment l'intérêt de la population. Dans une cour d'assises, je crois que l'avocat général, il est là pour prononcer un réquisitoire, donc c'est souvent quelque chose de très théâtral, très véhément. Souvent, ce sont des choses qui ont été préparées des semaines, des mois à l'avance pour vraiment capter l'audience à ce moment-là. Son rôle, c'est de démontrer la culpabilité d'une personne et puis de requérir une peine adaptée. Et il est là pour défendre les intérêts de la société, et lui, il est là pour demander l'application de la loi. Ce qui est très intéressant, du coup, c'est que cet avocat général, c'est presque, selon moi, la voix de Samuel pendant le film, parce que, hormis ces deux flashbacks, donc la dispute avec la mère, où là, on entend réellement sa voix, et cette discussion éventuellement imaginaire avec son fils dans la voiture, et ben Samuel, il est complètement muet. On arrive donc à la fin du film avec un scénario à double, voire triple, quadruple lecture en fonction de ce que vous avez imaginé. Et c'est quelque chose qui est complètement volontaire de la part de la réalisatrice. Hein. Justine Triet, elle l'a assez dit. Cette délicieuse ambiguïté qu'elle laisse voler comme ça à la fin du film, elle est complètement volontaire. Et il y a un autre élément dont j'ai pas parlé, mais je pense que aussi le fait que je consomme beaucoup beaucoup de contenu côté faits divers, que ça soit des podcasts, des livres, des reportages à la télé ou autre, j'ai peut-être un regard qui est un petit peu biaisé, et c'est peut-être pour ça que je l'ai pensé immédiatement coupable à la fin du film, et que voilà, vous partagez peut-être pas mon avis à la fin de cet épisode de podcast. Moralité, eh bien, si vous cherchiez une réponse, si vous cherchiez un avis ferme et définitif à l'issue de l'écoute de cet épisode de podcast concernant Anatomie d'une chute, eh bien, je suis regret de vous dire qu'il n'y a pas de réponse, parce que la bonne réponse, c'est la vôtre. C'est la première fois qu'un film me bouleverse autant, avec quand même Shutter Island, hein, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode, mais je suis sortie complètement bouleversée du visionnage de ce film, que j'ai trouvé à la fois extrêmement banal et à la fois brillant dans tous les détails qu'il comporte et que je viens de vous exposer pendant ce podcast. Moi, je serais absolument incapable d'avoir un avis ferme et définitif sur ce film, et je pense que dans un autre contexte, ça aurait pu me frustrer, mais que, pour une raison que j'ignore, j'accepte tout à fait d'être dans cette ambiguïté à la fin de mon visionnage et de, bah, typiquement, vous proposer cet épisode sans pouvoir vous donner une piste réellement claire, d'autant que Justine Triet, la réalisatrice, a assez insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse et que l'appréciation, c'était celle du spectateur et qu'elle n'avait pas à orienter son jugement. J'espère que ce décryptage d'Anatomie d'une chute vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné aussi envie de vous renseigner davantage comme moi j'ai pu le faire, parce que donc là je vous fais un condensé en une trentaine de minutes au moment où je vois le compteur qui défile. Mais des théories, il y en a plein. Des détails cachés dans le film, il y en a des milliers. Certains que je n'ai d'ailleurs pas remarqués. C'est pour ça que j'ai très envie de regarder ce film une deuxième fois et d'avoir un autre regard sur le scénario. En tout cas, ça fait très longtemps qu'un film ne m'avait pas autant bouleversée et ça fait longtemps aussi que je n'avais pas aussi bien compris pourquoi un film avait pu recevoir autant de récompenses. Parce que là, c'est quand même franchement carton plein d'ailleurs, autant en France qu'à l'étranger, parce qu'entre les Césars, la Palme d'Or, les Oscars, c'est vraiment un film qui a reçu une critique dithyrambique sur tous les côtés de la planète. D'ailleurs, que ça soit côté Europe comme côté États-Unis, ce qui est très intéressant parce que les lectures de films sont différentes. J'ai d'ailleurs entendu certaines critiques qui disaient que si le film avait été francophone de A à Z, le public américain, notamment pour les Oscars, aurait peut-être moins apprécié et que la récompense aurait peut-être été moins évidente. Je vous avoue que j'ai pas assez de connaissances dans le domaine pour pouvoir dire ça. Mais j'espère sincèrement que cette critique, ce regard sur ce film auront été agréables à écouter et que peut-être ça va engager la discussion chez vous. Si vous êtes plusieurs dans votre foyer à avoir regardé ce film, je serais curieuse d'avoir vos théories. Peut-être qu'il y a plein de choses, enfin c'est certain qu'il y a plein de choses que j'ai pas abordées dans cet épisode parce que voilà, en 30 minutes, je pouvais pas parler de tout et que je voulais pas que ça soit indigeste. Mais si vous avez encore des théories, des détails que je n'avais pas vu dans le film ou des pistes que je n'ai pas assez explorées, je serais très curieuse et je serais très contente de discuter avec vous de ce sujet-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Moralité.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.